c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et vous écoutez Fréquence Mistral dans le magazine À la bonne heure. Il est midi 18, l'heure de parler de la fête de la science. Et pour cela, nous avons été rejoints par Julie Krutz, directrice de la bibliothèque de la Salle Les Alpes. Bonjour Julie.
Bonjour Marion.
Alors Julie, la fête de la science est un événement qui vous tient à cœur, si je ne me trompe pas.
Oui, on travaille depuis plusieurs années avec les bibliothèques pour valoriser cet événement, qui est un événement national. Alors a priori, on se dit que c'est pas forcément dans les bibliothèques qu'on pourrait accueillir des événements autour des sciences. Et pourtant, on a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de documents qui parlent de ces thématiques. Et c'est intéressant, je trouve, surtout dans le Briançonnais, de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, de pouvoir rencontrer des personnes scientifiques qui travaillent dans des grandes villes, histoire d'ouvrir un petit peu les horizons pour les jeunes et puis de se divertir et d'apprendre en même temps.
Parce que la fête de la science a été initiée en 1991, c'est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est ouvert à tout le monde, il y a des événements partout en France. Vous connaissez un petit peu plus cet événement ? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire sur son histoire ?
Eh bien, l'idée de la fête de la science, en fait, c'est de valoriser les sciences. Alors vraiment, toutes les sortes de sciences, on ne s'arrête pas aux sciences dures et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi l'idée de faire se rencontrer les scientifiques et le public avec des propositions gratuites. Donc c'est vraiment des temps de médiation ouverts à tous pour voir les sciences entrement et puis pourquoi pas pour donner envie aux jeunes de s'orienter vers des métiers liés aux sciences.
Et alors vous, sur le territoire, en tant que directrice des bibliothèques, vous avez organisé plusieurs événements en association avec les bibliothèques. Est-ce qu'il y avait des événements pour la fête de la science avant que vous initiiez ça ?
Alors sur le Briançonnais, ça fait longtemps que la maison de la géologie et du géoparc se mobilise autour de la fête de la science. Il y a depuis plusieurs années le village des sciences qui est mis en place à la maison de la géologie. Cette année, il y aura encore une fois le village des sciences. Nous, au niveau des bibliothèques, on a commencé à faire un travail commun à partir de 2022. Et cette année, on est deux bibliothèques à proposer des animations dans le cadre de la fête de la science, la bibliothèque de Val-des-Prés et notre bibliothèque à la Salle des Alpes.
C'est une sacrée organisation, j'imagine. Et vous travaillez avec des partenaires, d'autres en collaboration, je veux dire, avec d'autres acteurs ?
Alors pour cet événement qui est un événement national, on a la chance d'avoir à la fois une coordination régionale qui est assurée par les petits débrouillards à Marseille, mais aussi une coordination départementale qui est assurée par Gap Science Animation, donc à Gap. Et c'est intéressant parce que aussi bien avec ses partenaires régionaux, départementaux ou avec les partenaires qui font la fête de la science dans le Briançonnais, on a plaisir à travailler. Participe aussi à la fête de la science, la ludothèque. On fait souvent des actions communes, donc c'est un partenaire de longue date et un partenaire récurrent. Mais c'est intéressant d'avoir cette émulation autour de ces sujets. Ça demande à travailler autrement et ça développe plein de choses nouvelles.
Alors, on a très envie maintenant de savoir le programme de cette année. Quel sera-t-il ?
Alors, pour les bibliothèques, la fête de la science, ça se déroulera le samedi 4 octobre, le matin à Val-des-Prés, l'après-midi à la Salle des Alpes. À Val-des-Prés, le matin, ce sera de 10h30 à 12h30. C'est gratuit sur inscription. Et en fait, là, c'est l'association justement qui coordonne au niveau départemental, Gap Science Animation, qui fera le déplacement, qui viendra à la bibliothèque de Val-des-Prés pour proposer des petits défis scientifiques pour toute la famille, avec des questionnements autour des mathématiques, de la physique, de la chimie de l'eau, de l'air, tout ça de façon complètement ludique. Et voilà, c'est pour pouvoir proposer avec des temps comme ça, parents-enfants, des moments pour voir la science autrement. Donc ça, c'est pour le matin. Et puis l'après-midi, à la Salle des Alpes, ça va se faire en deux temps. Mais je préfère laisser la parole à Alice Gonzalez, qui se fait appeler Nénu, quand elle œuvre en tant qu'artiste. Elle vous présente tout ça
Bonjour auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral, ici Nénu. Je suis animatrice d'atelier de radio et documentariste sonore. Ce samedi 4 octobre, pour l'occasion de la fête de la science, j'anime un atelier autour du logiciel Reaper, un logiciel de montage à la bibliothèque de la Salle Les Alpes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui ont envie d'expérimenter la création sonore et de savoir utiliser cet outil-là, qui est un outil extraordinaire avec plein de possibles. On va essayer à cette occasion de l'appréhender, de repérer, connaître les bases de ce logiciel pour pouvoir gagner en autonomie, savoir comment démarrer un projet de montage sonore. On va faire ça collectivement avec une banque de sons que je vais ramener. Et il sera aussi possible pour celles et ceux qui ont envie d'enregistrer des choses à la bibliothèque de la Salle Les Alpes à partir de ce qu'on va pouvoir y trouver. Et aussi à partir de ce qu'on peut récolter comme matière sonore sur Internet. Voilà, donc on peut lire, vouloir enregistrer de la lecture, du bruitage ou aller rechercher plutôt des archives. Et on va essayer donc tous ensemble de créer une petite capsule sonore, une création sonore pendant ce temps d'atelier. Collectivement sous la forme d'un cadavre exquis. L'idée, c'est d'être dans la création un peu spontanée, un peu intuitive, pour pouvoir se pencher le plus possible sur ce logiciel Reaper. C'est un peu un apprentissage sans fin, ce logiciel, parce que voilà, il sert pour faire du montage, pour faire du mixage, pour enregistrer. Donc il y a plein de possibilités, mais nous, on va essayer d'aller à l'essentiel, vers une création collective pour s'amuser avec les sons, s'amuser à les découper, à les placer, à tester qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça change dans l'aspect sonore, dans l'écriture sonore, qu'est-ce que ça invoque comme imaginaire. Cet atelier est à l'attention de toute personne ayant envie de manier le montage, que ce soit pour du contenu audiovisuel, que ce soit pour faire de la radio, du podcast. Ça peut être utile dans le domaine de la musique ou juste voilà, par simple curiosité pour découvrir. C'est une occasion de passer un moment que chacun, chacune ramène sa patte, sa créativité pour notre réalisation finale. Et voilà, on va tester, expérimenter ensemble et ça va être une chouette après-midi. Et à la suite de cet atelier, l'idée c'est qu'on convie celles et ceux qui sont dans les parages à venir écouter notre petite réalisation. Voilà, merci beaucoup.
Et c'était donc Nénu qui propose cet atelier samedi prochain. Donc Julie Krutz, comment participer à ces événements? Quelles sont les informations pratiques à connaître?
Alors, si vous souhaitez participer au défi scientifique le matin à Val-des-Prés, vous pouvez appeler le 06 40 96 36 68. Et si vous voulez vous inscrire à l'atelier l'après-midi à la Salle des Alpes qui commence à 14h30, il faut réserver au 04 92 24 83 75 ou par mail à bibliothèque@lasallesalpes.fr. Pour ce qui est de l'écoute collective à la suite de l'atelier qui commence à 17h30, là, pas besoin de s'inscrire. Tout le monde est le bienvenu dès le plus jeune âge.
Et donc pour cet événement, la fête de la science dans le Briançonnais, on disait donc il y a la Maison de la Géologie, il y a ce qui se passe dans les bibliothèques, est-ce qu'il y a d'autres événements?
Il y a la ludothèque qui participe aussi, alors si vous voulez vous renseigner ou voir des choses plus en lien avec la thématique de cette année, parce que chaque année la fête de la science choisit une thématique en particulier et cette année la thématique c'est l'intelligence, eh bien il faudra vous rendre le 8 octobre à la ludothèque. C'est une entrée gratuite entre 10h et 12h30 et puis de 14h à 18h. Et en détail, il y aura des jeux de société sur le thème de l'intelligence. Il y aura un espace petite enfance avec les robots dans tous leurs états, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est l'occasion ou jamais de parler aussi de tout cet aspect-là. Il y aura un jeu de rôle enfant avec une intelligence rigolote, pas vraiment artificielle. Et puis des ateliers Fab Lab avec une découverte de l'IA, crée ta propre chanson en utilisant l'IA. Et pour finir, démonstration et initiation au codage et à l'Arduino.
Très bien. Et à côté de cela, il y a aussi les transhumances artistiques qui font partie de la fête de la science. On n'oublie rien sur ce programme ?
Alors, il y a le village de la science, juste pour vous donner quelques détails. Vous savez, donc, c'est à la maison de la géologie. Il y aura, en plus de toutes les expositions, les mines d'argent du Fournel de l'Argentière, la Ligue de protection des oiseaux, le lycée d'altitude qui parlera de son projet horloge d'altitude et la société géologique et minière, avec le parc aussi, le parc national des écrans, l'association Forêt Alpine, bref, tout plein de partenaires qui feront vraiment vibrer la science au plus haut.
Eh bien, merci Julie Crutz, on espère que vous aurez du monde pour ces événements. Et vous pouvez retrouver, pour celles et ceux qui nous écoutent, tous ces événements sur le site de gsa05.fr qui regroupe tous les événements de la fête de la science sur le département. Et je vous propose qu'on se retrouve après une pause musicale pour parler des transhumances artistiques qui font donc partie de la fête de la science. Et on va détailler, faire un petit zoom sur cet événement-là. Merci Julie Crutz.
Merci.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et nous avons été rejoints par Jules Pro, responsable du développement territorial et des projets culturels pour l'association Serre, Lézard et Transhumance Artistique, et Mathilde Nicole et Elena Malak, toutes deux artistes. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venus donc pour nous parler de cet événement et cette résidence Transhumance Artistique. Jules Pro, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est ce projet ?
Alors, les Transhumances Artistiques à Puy-Saint-André, ça fait 4 ans qu'on réalise ce projet de résidence. En fait, l'idée est de faire venir des artistes plasticiens, pour créer des installations sur un sentier d'art qui est entre la maison de la géologie et le chef-lieu de Puy-Saint-André. On a une petite boucle là d'environ une bonne heure et demie de marche. avec des installations que je qualifierais d'art environnemental, où l'idée c'est de travailler sur le patrimoine, mais pas que le paysage, aussi l'histoire, la mémoire des lieux, donc l'activité humaine. Et donc voilà, ça fait 4 ans qu'on est à Puy-Saint-André, sur des programmations de résidence de 3-4 sacs semaines avec des artistes qui viennent sur ce temps-là à Puy-Saint-André et plus globalement dans le Briançonnais. Et donc voilà, là c'est la 4e édition, on est très content de pouvoir revenir. Là on est sur un format un peu plus court puisqu'on est là que pour 2 semaines, mais avec à chaque fois l'idée d'organiser des temps de rencontre avec les habitants, notamment les balades artistiques et donc le rendez-vous pour la fête de la science qui va inaugurer les projets et les installations qui sont maintenant présentes sur le sentier et futures pour 2026.
On présente la suite. Et donc, c'est un sentier qui, à chaque fois, est présenté au public autour de moments avec les locaux. Et en parallèle, il y a à chaque fois des résidences avec des artistes. C'est ces deux temps qui correspondent, qui définissent les transhumances.
C'est-à-dire qu'il y a une part résidence-création où les artistes ils sont dans un processus pour créer des installations ou des rencontres avec les habitants. Mais il y a aussi l'idée d'organiser des événements, les rencontres avec le public. Donc c'est le côté bad artistique, ce qu'on appelle nous des actions de médiation. On a le partenariat avec les ateliers des Beaux-Arts aussi pour cela. Et un côté événement où on organise des ateliers en lien avec la Fête de la Science et l'inauguration du sentier. Donc ouais, à chaque fois, il y a une part résidence-création et une part événement-médiation.
Ça, c'est à Puy-Saint-André, mais le projet est plus général puisqu'il y a d'autres sentiers qui existent dans la région.
Oui, Transhumance Artistique, c'est un projet de coopération avec d'autres territoires. Puisqu'on a un sentier à Serres, donc là où est implantée l'association Serres-Lézard. On a aussi un sentier au Ventoux, à la face nord du Ventoux, au niveau du village de Savoyant avec l'association Grandeur Nature. Et on a d'autres sentiers qui sont en cours dans le Vercors, au niveau de l'École de la Machine, la Forêt de Lente, et voilà, ça bruisse, il y a d'autres sentiers qui sont en développement, pour vous dire qu'en fait les transhumances artistiques, c'est une circulation d'artistes entre ces différents lieux, où à chaque fois on organise des résidences et des sentiers d'art, et c'est une coopération entre des associations et puis des territoires. Par exemple, à Puy-Saint-André, rien ne se ferait s'il n'y avait pas la mairie de Puy-Saint-André qui était derrière. Donc les élus, le conseil municipal, Estelle Arnaud, Pierre Leroy, qui ont beaucoup appuyé pour que le projet puisse avoir lieu ici à Puy-Saint-André. Donc voilà, c'est une circulation, c'est une coopération et c'est en plein développement avec des possibilités de création de nouveaux sentiers en Belledonne, en Italie, enfin bref, je vais pas trop m'étendre. Mais...
Le projet en tout cas c'est de l'agrandir. Et quel est l'objectif de ce projet, de ces sentiers?
L'objectif, on est sur l'objectif culturel déjà, c'est qu'on puisse avoir des lieux de création et de diffusion pour les artistes et pour les publics, qu'ils ne se fassent pas dans les musées. Donc là on est sur du plein air, donc l'idée c'est aussi d'avoir un accès pour toutes et tous, donc gratuit, et tout au long de l'année. Donc on est aussi sur un enjeu d'attractivité, mais pas que sur une saison. L'idée c'est d'avoir un axe de fréquentation de ces sentiers de montagne autrement tout au long de l'année, et pas sur du gros flux, mais sur du flux régulier. Voilà. Donc on est sur une fréquentation durable, on va dire.
Et donc Mathilde Nicole et Elena Malak, vous aviez déjà entendu parler de ces transhumances avant d'arriver en résidence ici ?
Alors oui, moi personnellement, c'est la quatrième année que je reviens ici. En fait, j'avais eu la chance du coup de faire un documentaire sonore dans le cadre d'une résidence qui s'appelait Mémoire Neuve, où j'avais travaillé avec les habitants de Puy-Saint-André. Je vais dire une dizaine d'habitants qui ont participé au son, quoi. Et c'était un travail sur la mémoire du commun et aussi des oubliés de la montagne. Et depuis, je suis revenue en soutenant aussi un peu le projet et en gardant contact. Et cette année, je reviens dans une autre forme avec le collectif Les Chapacans, qui est un collectif qu'on a monté avec un collègue qui s'appelle Jean-François Marc et moi-même. Et cette fois-ci, on présente en fait un banquet, un festin partagé qu'on pense avec les habitants de Puy-Saint-André. Donc c'est une autre manière en fait de faire œuvre et d'être dans un geste aussi participatif, inclusif, mais toujours un peu dans cette quête de mémoire, de collecte, quoi, de récits et de souvenirs.
Et dans les deux créations que vous avez faites, aucune n'est restée. Alors c'était des moments de rencontre.
Alors il y a toujours ce désir de faire pérenniser justement le souvenir, la rencontre, le lien. humain, social. Mais moi, j'ai laissé une petite boîte avec un QR code et une oreille gravée dessus. Donc techniquement, les gens qui passent dans le sentier, ils peuvent rencontrer cette boîte qui est, ma foi, un petit peu cachée. Mais ça fait partie un peu du mystère. Et on peut donc la scanner. On a accès à ce son. C'est 25 minutes de documentaire sonore avec de la musique, des témoignages, du son aussi un peu plus expérimental.
Et le banquet, alors, quelle forme aura-t-il ?
Alors, le banquet, bah, là, c'est vraiment... Donc, on est en première semaine de repérage à Puy-Saint-André. On a eu la chance de participer à la fête de l'automne où on a appris à faire des pizzas avec les habitants. Donc, c'était vraiment un bon moment pour comprendre comment on organise une fête, en fait, sur ces communes. Et quelle forme aura-t-il ? Pour l'instant, les possibilités sont carrément ouvertes. Tout dépendra de ce qu'on glane comme recette locale transmise ou inventée auprès des habitants et habitantes. On a distribué des petites feuilles de collecte. Et on a des personnes un peu qui vont nous aider, des personnes ressources, donc chaque partie du village qui vont nous aider à les ramasser. Et en fonction de ça, on prévoira tout un repas qui sera en fait une performance qui a été réalisée déjà en enquête à Savoyant. Donc c'est intéressant toute cette question de la transhumance aussi, du travail artistique, parce que nous, on a eu la chance avec Jeff, le collectif Chapacan, de faire cette enquête pendant un an à Savoyant, qu'on emmène et qu'on restitue aujourd'hui dans une forme conviviale et culinaire aux habitants de Puy-Saint-André. Mais du coup, ça pose la question, est-ce que les territoires, ils partagent du commun aussi sur des questions de mort animale, de convivialité, d'ancestralité ?
Parce que les artistes qui participent font les différents sites à chaque fois ou certains sont amenés à revenir au même. Quel est le...
Il n'y a pas vraiment de règles. L'objectif, effectivement, c'est que les artistes puissent circuler. Mais après, c'est projet par projet, c'est aussi démarche par démarche. Donc voilà, par exemple, à Serres, on est dans un village, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître à Savoyant. On est plus dans la nature, paysage Ventoux. Donc j'ai envie de dire, voilà, il y a des projets qui marchent aussi selon les territoires et aussi selon la volonté des artistes. Voilà.
Et Mathilde Nicole, quel est votre rapport aux transhumances artistiques ?
Moi, c'est la première fois que je participe à ce format de résidence et que je travaille avec l'association Les Arts. Et dans un format d'ailleurs un peu particulier, parce que normalement les résidences se passent sur 2 ou 3 semaines et l'œuvre est produite l'année même. Et en fait, bon, pour différentes raisons, je suis en période de recherche pour ces 2 semaines et l'œuvre sera installée l'année prochaine. Du coup, j'avoue que je crois en avoir tiré un peu mon parti. Ça m'a permis de prendre le temps de vraiment arriver sur ce territoire montagneux en plus. Moi, j'ai pas l'habitude, je viens de Marseille. Et de rencontrer du monde. Après, l'énergie collective aussi des autres artistes comme Elena et Jeff, j'avoue que ça a bien participé à ouvrir les rencontres. Voilà, moi j'arrivais en plus avec un bagage de travail, de recherche sur les territoires forestiers, mais plutôt dans la montagne noire au nord de Carcassonne, avec des enjeux forestiers très différents. Ça a été une semaine intense de recherche, de rencontres, à la fois des habitants, notamment une personne qui a travaillé avec l'ONF dans les années 70, donc qui a eu un témoignage assez intéressant sur ce rapport à la forêt qu'il y avait à ce moment-là, et aussi des rencontres avec l'ONF, où ça m'a permis aussi de comprendre plus précisément les enjeux du territoire. Voilà, et puis là, je suis plutôt dans une phase où je commence à rencontrer un peu des artisans ou là, une série du coin. Essayer d'envisager plus concrètement l'œuvre qui prendra place sur le sentier l'année prochaine.
Et vous n'avez pas encore d'idée de la forme que peut prendre cette œuvre ?
Si.
Ah, si. Vous ne voulez pas nous en dire plus ?
Non, ça ne me dérange pas de vous en dire plus. Ce sera probablement un ensemble de 3 belvédères, des sortes de terrasses sur pilotis assez basses pour éviter les enjeux de sécurité. Garder une ouverture comme ça dans l'approche. Et le motif de ces sortes de terrasses comprendront en fait des éléments de compréhension de l'évolution du paysage au travers des décennies. À savoir que j'ai j'ai axé mon intérêt, disons, sur un comparatif de cartes entre les années 50 et aujourd'hui, 2025, avec une vue satellite de la commune de Puy-Saint-André, voilà, sur lequel se trouve le sentier. Et voilà, donc ça permet à la fois de comprendre l'évolution des territoires forestiers, l'évolution des pratiques agricoles et l'évolution de l'urbanisation. Voilà. Donc l'idée, c'est de sensibiliser le public plutôt à voilà, comment est-ce que le paysage il évolue et en reflet, donc quels sont nos modes de vie. Voilà.
Et donc pour ce travail de recherche que vous effectuez, comment ça se passe pendant ces résidences? Est-ce que vous êtes amené à vous rencontrer, vous, dans vos recherches, ou est-ce que c'est chacun de son côté?
On partage beaucoup, je trouve. Mmh.
On a un espace aussi de vie, qui est la Quimpina, qui est une maison qui est très importante à Puy-Saint-André, où il y a beaucoup de colonies de vacances qui passent, et en fait différents publics. Et cet espace, ça nous permet vraiment d'être dans le commun de nos recherches. Et je pense que on s'enrichit, on s'alimente les uns les autres.
Ça vient naturellement. Ouais.
Et après, chacun a un peu sa méthodologie aussi, dans chacun des projets. Il y en a qui vont plus se balader. Enfin, le rapport aussi à la marche, il est très important. Je pense au regard, à la contemplation de ce qu'il y a autour de nous, mais aussi du coup à la rencontre, aux discussions qui peuvent être assez longues, aux entretiens. C'est un peu éparse, quoi.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des approches très différentes. Vous êtes beaucoup plus dans le social. Moi, par exemple, cette semaine, j'avais l'impression d'avoir une volonté plus technique, un peu de comprendre auprès de l'ONF, etc. Et en fait, on se rend rapidement compte que ça se recoupe, ce qu'on cherche. On cherche à révéler des histoires anciennes, des modes de vie. Et en fait, à Puy-Saint-André aussi, c'est passionnant parce que même il y a pas mal de personnes un peu âgées et ils sont volontiers témoins de ces périodes plus anciennes, quoi, aussi.
Vous êtes combien d'artistes cette année en résidence?
On est quatre. On est quatre, dont le collectif Les Chapacans, on est deux. Donc en fait, il y a trois résidences de recherche et de création.
Et Jules Pro, comment vous sélectionnez les artistes qui viennent en résidence?
Nous, on est sur des profils d'artistes qui nous semblent pertinents pour intervenir sur nos sentiers et sur nos différents territoires. Donc j'ai envie de vous dire, c'est principalement, il n'y a pas vraiment d'appel à projet, c'est une sélection qui se fait avec les territoires et les structures. Donc il y a l'association Grande Nature et qui en est partenaire, l'association Serre les Arts, mais par exemple, les artistes ils viennent ici avec aussi la caution et la validation de la mairie de Puy-Saint-André. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, cette sélection elle se fait sur profil. Et sur projet avec les acteurs qui sont directement concernés par le sentier. Voilà.
Et en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous plaît dans un projet de transhumance, donc d'itinérance?
Beaucoup de choses. Après, moi, je pense que l'enjeu que je trouve le plus important à cet endroit-là, dans un projet plus global qui est un sentier de Landart, c'est d'avoir un rapport justement éphémère. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres du coup qui restent, et c'est ça aussi c'est ce qui reste aux habitants dans le territoire. Mais je trouve ça intéressant aussi en fait de venir questionner ça sur l'éphémère et la convivialité, de réintroduire aussi des formes artistiques dans la cité, au cœur du travail citoyen, de que chaque habitante ait l'impression aussi d'être en possession d'outils artistiques, parce qu'en fait on est tous artistes, c'est juste que nous on en fait quelque chose qui prend plus de place. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de partager ça avec les autres, parce qu'en fait, quand on parle de nourriture, c'est quelque chose, par exemple, de très au cœur de nos... Enfin, je veux dire, la nourriture, c'est du commun. Et c'est très intime aussi. Donc, en fait, chacun a des petites recettes à partager, a du savoir-faire, de la boulangerie, du feu. Enfin, c'est là où, en fait, ça crée une forme assez populaire aussi d'équilibre, de mise à plat en fait de nos outils, de nos savoirs. Et du coup, je trouve ça intéressant de réintroduire ça dans un projet qui est plus plastique et de décaler un peu nos imaginaires à ce niveau-là.
Et du coup, ce commun permet vraiment d'avoir un lien avec les locaux, les habitants?
Oui, parce qu'en fait, créer des fêtes, organiser des repas, c'est quelque chose qui existe déjà dans la vie des gens. Nous, on n'a pas une nouvelle idée en faisant ça, mais c'est le fait de faire ça avec aussi des gens extérieurs, parce que nous, on n'habite pas au village. On est artistes à Marseille, Jeff et moi, à l'Estac et Marseille. Et du coup, c'est une Enfin, voilà, ils nous acceptent aussi et ils nous font découvrir beaucoup de choses, mais c'est un partage unilatéral, enfin justement pas unilatéral, mais des deux côtés, quoi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, parce que nous, sur les formes aussi de banquets, on est assez inspirés des formes ancestrales et de villages. On en apprend beaucoup d'eux.
Et vous, Mathilde, votre rapport à l'itinérance, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ?
Alors, moi, c'est la première fois que je participe aux transhumances artistiques, donc je ne peux pas encore faire de comparaison. Par contre, ce que je trouve déjà intéressant de mon expérience cette semaine, c'est que je suis arrivée justement avec une certaine vision de la gestion forestière. Enfin, c'est un peu le cœur de mon travail, là. Et en fait, il m'a fallu peut-être 2 jours... pour me rendre compte que c'était pas les mêmes enjeux qui se passaient ici. Donc en fait, envisager une évolution de la recherche en fonction de différents territoires, je trouve ça passionnant.
Et donc cette année, Jules Pro, vous disiez qu'il y avait 2 rendez-vous avec le public en fin de résidence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Comment ça se passait?
Alors oui, donc, le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle les balades artistiques. C'est la possibilité en fait de visiter le sentier quand les artistes sont en présence et sont en création. Donc c'est une rencontre, ça se fait beaucoup avec les ateliers des Beaux-Arts, donc les différents stagiaires, mais c'est aussi ouvert au public. Ils peuvent nous rejoindre sur la tranche horaire de 10h à 13h. Donc voilà, s'il y en a certains et certaines qui veulent nous rencontrer à ce moment-là, c'est possible avec l'équipe des Transhumances qui sera là aussi pour encadrer les balades. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, c'est donc la fête de la science avec le samedi 4 octobre, avec toute une programmation d'ateliers avec Estelle Grisot qui nous rejoindra, qui est une artiste qui vient du territoire avec son atelier aquarelle. Il y aura aussi Elena qui pourra proposer son atelier, Mathilde et François Dehousse qui est l'autre artiste en résidence qui fait lui une installation. Donc voilà, ils seront tous à proposer différents ateliers. Et ensuite, de 16h à 18h, ben là, on ira en balade rencontrer les nouvelles artistes et les nouveaux projets d'installation qui auront lieu avec Mathilde et Elena.
Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu les ateliers que vous allez proposer, Mathilde et Elena ?
Oui, moi, je vais proposer au public de travailler sur les cartigènes de la région. Avec des feuilles calque et l'idée c'est de créer un nouvel aménagement du territoire un peu à la façon de ce qui s'est passé au 19e siècle quand il y a eu toutes ces campagnes de reforestation et de travaux de génie civil pour endiguer les torrents qui venaient marquer la fin de la petite ère glaciaire. Voilà, en France, mais particulièrement dans ce territoire montagneux. Et donc, l'idée, c'est de singer un peu ces pratiques avec un point de vue un peu humoristique, évidemment, mais par là, d'approcher une pratique du dessin cartographique.
Quelle est votre formation, votre parcours pour faire ces recherches-là et être intéressé par tout cela? Est-ce que c'est un parcours plutôt artistique ou lié à de l'histoire, de la géographie?
Non, j'ai fait une licence en sociologie et un master aux Beaux-Arts de Marseille. Mais mon intérêt pour la forêt, pour les territoires forestiers et les enjeux qui y sont liés, vient plutôt de ma famille et de là où j'ai passé mon enfance, dans la montagne noire au nord de Carcassonne, comme je disais tout à l'heure.
Oui, et c'est un intérêt qu'on retrouve dans d'autres projets que vous menez hors ces transhumances?
Oui. Oui. En 2024, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur un projet qui s'appelait « Où poussent les champignons quand il n'y a plus de forêt ?». Voilà. Donc là, c'était à la fois de la recherche directement dans la montagne noire autour d'un petit hameau où j'ai pu rencontrer un historien qui avait beaucoup bossé sur l'histoire des différents enjeux liés à cette zone. Aussi un forestier qui avait un rapport plutôt vernaculaire au territoire. Il parlait qu'en occitan, c'était assez drôle. Et voilà, donc c'était un projet à la fois de recherche, de sculpture, de photographie et voilà, de tisser un peu un récit docu-fictionnel autour de ces notions de forêt, quoi.
Et ce projet a donc donné lieu à une exposition qui est encore visible quelque part ou qui tourne ou...
Oula non, c'était en 2024 à Marseille au Château de Servières. Voilà. Mais ça a duré 3 mois et puis après j'ai continué mes recherches sous d'autres formes. Mmh. Notamment une résidence dans la forêt de Fontainebleau. Il y a plusieurs choses qui se sont passées ensuite.
D'accord. Et vous, Elena, alors, votre atelier pendant ces transhumances artistiques ouvertes au public ?
Alors, nous, on propose donc un atelier cyanotype. C'est de la photographie alternative sans appareil photo qui fait des résultats. En fait, on a un cet imaginaire des plantes. En fait, c'est les premiers herbiers qui ont été faits par Ann Atkins sous cette technique, donc qui permettait de glaner en fait des herbes et des plantes et de les archiver, de les collecter. Et nous, on utilise ça pour en fait réaliser, faire des expérimentations sur tissus. Donc, c'est des tissus qui sont enduits au préalable dans cet alliage en fait de chimie. Et quand on les expose au soleil avec l'intermédiaire d'objets qui vont être des objets issus des os, du végétal, de l'animal, et des objets aussi issus de la gastronomie, des outils de cuisine. Et en mêlant ces trois types d'objets sur les serviettes, on va créer en fait des serviettes de table pour le banquet. Donc l'idée, c'est que on utilise aussi la participation des habitants et des habitantes et des jeunes qui seront là pour réaliser en fait plastiquement les objets qui nous permettront de nous mettre en sens, en ouverture de sens pendant le banquet. Donc on va essayer de réaliser des serviettes, on va voir ce que ça donne. Et puis l'idée, ça sera aussi de partager tout le processus de travail autour du banquet et d'inviter les gens à venir manger et ripailler avec nous, bien évidemment.
Donc quand même, là, dès cette résidence, il y aura quand même de quoi manger.
On voulait faire goûter des petites choses parce que en fait, il y a aussi tout ce travail autour de la cueillette que je trouvais intéressant. L'idée aussi pendant le banquet, c'est d'inviter des gens pour qu'ils viennent parler de leurs pratiques. Donc on veut inviter des cueilleurs, des chasseurs, des éleveurs, pour qu'il y ait une manière de mettre en récit le territoire et les usages qu'on en a avec des invités. Mais l'idée, ça serait aussi du coup de goûter des petites choses qui sont présentes, parce que par exemple, on a réalisé une soupe d'ortie qui est fort populaire, ma foi. Et c'était super, très bonne découverte. On va continuer ces expérimentations tout au long des semaines qui vont arriver.
Et vous êtes allés à la cueillette aux champignons ensemble ou pas ?
Et non, pas encore eu ce plaisir. Le temps ne nous a peut-être pas permis ça non plus, mais peut-être dans les jours à venir. Mais je trouve que cette question du champignon dans le travail de Mathilde, il reste aussi très... c'est les histoires de champignons, c'est quelque chose de très populaire aussi. C'est des histoires qu'on peut vraiment partager. Et toute cette semaine, en présence de Mathilde, je trouve qu'on a énoncé plein de petites histoires de champignons ensemble. Et donc ça me suffit, moi, déjà que ça soit présent dans la mémoire, je trouve que c'est
mental.
Ouais, c'est ça.
Et ce sentier artistique qui est déjà réalisé avec les œuvres, vous l'avez déjà parcouru, j'imagine, depuis que vous êtes arrivée ou...
Oui, plusieurs fois.
Ah. Et alors, est-ce que vous avez un retour à faire pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu ?
Sur le sentier ?
Sur le sentier.
Il faut s'y rendre pour éprouver l'émotion.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant sur ce sentier, un peu avec la... Enfin, si je remets en parallèle aussi les autres sentiers que j'ai faits, j'en ai pas fait énormément, mais dans le cadre des transhumances, je trouve qu'il a un rapport aussi un peu plus intime et on peut vraiment se perdre dans certaines allées. Et quitte à sortir un peu du chemin qui a déjà été tracé. Je trouve que c'est très beau ce rapport aussi de se perdre et de se retrouver sur la route, et ça nous permet de regarder la nature comme une forme de travail artistique aussi. Je trouve ça assez chouette, ça.
Jules Pro, tout va bien ?
Oui, oui, oui. J'étais complètement sous le charme de ce retour sur le sentier.
Et vous êtes content de ce sentier, d'ailleurs ?
Oui, très content, parce que c'est le premier sentier sur lequel on intervient où on est hors, on n'est pas chez nous, quoi, du côté de Serres et puis du côté de Savoyant. Donc c'est vraiment un enjeu de proposer quelque chose qui aille et qui soit vraiment bien, bien implanté sur le territoire. Et je trouve que vraiment, ça marche bien avec le sentier depuis Saint-André. Il y a une fréquentation tout au long de l'année. Il y a des bons retours des habitants et de la mairie. Donc nous, on est ravis. On espère que ça va continuer.
J'allais demander le rapport justement aux habitants. Donc vous disiez qu'il est bon. Vous arrivez à les faire venir aux événements, à ce qu'ils soient partie prenante des projets.
Bah, On essaye par le biais d'événements de faire venir du monde. Alors après, on sait que là, par exemple, le public qui est concerné sur les balles artistiques ou qui vient beaucoup sur la fête de la science, c'est un public qui connaît déjà un petit peu nos projets, qui a ce rapport-là à la culture. Et donc, en fait, on a du mal à sortir de sentiers battus. Il faut être clair là-dessus. Et donc, pour ça que les projets comme ce que proposent Mathilde et Elena, qui sont aussi en lien avec les habitants, qui nous permettent un peu, nous, de sortir de l'entre-soi culturel, bah, c'est bien. Il faut le développer et c'est ce qu'on va essayer de faire de plus en plus sur notre programmation de sentier.
Et alors, info pratique, justement, sur ces événements, c'est ouvert à qui, avec quel... tarif, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut réserver?
Non, c'est gratuit. Il ne faut pas réserver. Mais attention, les ateliers, il y a un nombre de places assez limité, mais non, faut pas réserver. Vous serez accueillis sur le pied du sentier au parking de la Maison de la Géologie. Il y aura une petite buvette, possibilité de manger un petit casse-croûte, et puis de faire différents ateliers. Et puis par contre, la balade, le top départ est à partir de 16h. Et s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, comme l'année dernière, il y avait 450 personnes qui étaient quand même sur le site. Là, on a fait plusieurs groupes, donc avec une médiation différente. Donc on est capable de s'adapter et accueillir.
Et pour retrouver des informations?
Sur le site internet des Transhumances Artistiques, sur le site internet de Serre-les-Arts, sur le site internet de la mairie de Puy-Saint-André, la page Facebook et Instagram des différentes associations. Vous pouvez tout retrouver, nos actualités, le suivi des artistes en résidence. Et voilà.
Et vous, alors, justement, les artistes, Mathilde Nicole et Elena Malak, où est-ce qu'on peut vous suivre et suivre ce projet et les autres?
Alors nous, avec le collectif Les Tchapakas, on a fait une petite carte à la façon un peu comme les marabouts qui mettent dans les boîtes aux lettres. On va un peu la disséminer. Mm-hmm. Mais sinon, on peut nous suivre, nous, sur l'Instagram des Tchapakan, en fait. On l'a féminisé aussi, parce que c'est une expression marseillaise qui est utilisée pour parler des marginaux, d'une manière de s'extraire du milieu de l'art. Et sinon, vous pouvez nous retrouver à Jean-François Marc et Elena Malak. Nous sommes un peu disséminés sur Internet, mais pas vraiment en plus que ça. Vous pouvez venir nous rencontrer, encore mieux, partager un moment avec nous sur le sentier.
Et Tchapakan, c'est donc C-H-A-P-A-N-E-S.
Ouais, c'est ça. Et il y a un autre collectif qui s'appelle comme ça, qui est beaucoup plus connu. Alors nous, c'est celui avec le moins de likes sur Instagram. N'hésitez pas à retrouver cette communauté, à venir nous soutenir.
Ça peut changer vite, voilà, si beaucoup de monde viennent vous soutenir. Et Mathilde Nicole?
Sur Instagram.
Sur Instagram, avec votre nom?
Mathilde Nicole.
Mathilde Nicole, donc Nicole, N-I-C-O-L. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.